Welcome to the Arcade Channel.
Alors, je voudrais d'abord vous introduire au sujet de mes conférences cette fois-ci. Je voudrais commencer par le diamant. Qu'est-ce que c'est qu'un diamant ? C'est une pierre précieuse qui est si dure que pour la travailler, il n'y a pas d'outil assez dur pour la tailler et elle ne peut être taillée que par elle-même. C'est-à-dire, on ne peut tailler du diamant qu'avec du diamant. On dira d'elle qu'elle est d'une dureté invincible. Et c'est probablement la pierre la plus dure connue. Et c'est sur cette dureté que je voudrais réfléchir avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses dures. Du silex, de la roche, des métaux, du fer, de l'acier, de l'acier au manganèse, etc. Ces choses sont dures et elles sont assez difficiles à manipuler, difficiles à travailler. Et donc, pour les travailler, il faut des outils presque aussi durs, c'est-à-dire des marteaux, des masses pour casser des cailloux. Il faut des masses et des ciseaux à froid pour tailler le marbre, etc. Elles sont dures, mais un peu moins dures que le diamant. Et puis, à mesure que je décris ces métiers-là, des métiers où vraiment on travaille sur des choses difficiles à manipuler, on peut faire baisser la dureté des choses. Et il est vrai que le menuisier, que le charpentier qui travaille le bois, trouve une matière qui est déjà moins dure que la roche ou que les pierres dont je parle ou que les métaux que je viens de parler. D'ailleurs, le mot matière en grec, en latin, veut dire le bois. Le bois est déjà plus difficile, plus facile à travailler. Mais il y a des matières qui sont encore plus faciles à travailler que le bois. Par exemple, la pâte à modeler, c'est déjà beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à manipuler, à modeler précisément. Mais encore plus facile, c'est ceux qui avec le lait font du beurre ou du fromage, c'est encore plus doux, encore moins plus facile. Oui, le flet, le fromage, les tissus, c'est pas très dur, n'est-ce pas? Les voiles, la dentelle, etc. Et puis les liquides qui sont encore moins durs. Ceux qui par exemple vinifient le vin, voilà. Les gens qui s'occupent du pressoir et qui s'occupent du vin, ceux qui s'occupent des sources d'eau et ceux qui s'occupent du vent. Et oui, parce qu'il y a quand même des gens qui s'occupent du vent, ceux qui jouent du hautbois, de la cornemuse, ou de la clarinette, ou de la trompette, ou de l'orgue, vous voyez. Alors, vous avez remarqué que de toutes ces matières, j'ai pris la plus dure, puis un peu moins dure, puis un peu moins dure, de moins en moins dure, un peu liquide, un peu solide, un peu aérien. Et donc, je suis allé sur une échelle intéressante, qui va du dur au moins dur, et à mesure que ça descend dans cette échelle-là, ça va vers le doux. Et est-ce qu'on peut trouver plus doux que les ondes aériennes ou que l'air? Vous avez remarqué quand même que j'ai descendu l'échelle des éléments, la terre, l'eau, l'air, là, et puis le feu liquéfie le fer. Est-ce que c'est le plus doux? Est-ce que j'ai touché au plus doux? Eh bien non, pas du tout. Je n'ai pas touché au plus doux, parce que si on prend la pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, ou l'acier, ou le bronze dont j'ai parlé tout à l'heure, ou l'airain dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut sur cette roche, sur cette pierre ou sur ce métaux, graver votre nom. Graver le nom de Christine Honorato, voilà. Ce signe-là, il y a des gens qui travaillent sur le signe. Vous, moi, on travaille sur le signe. On écrit, on parle, et on manipule une... Est-ce qu'on manipule une matière? Ben non. On manipule ni le fer, ni le bois, ni le fromage, ni le lait, etc. On manipule quoi? on manipule du signe, des lettres, des notes. On pourrait aussi être, par exemple, instrumentiste ou compositeur de musique, plutôt compositeur, on associerait des notes. Et là, on trouve un autre métier qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance. On pourrait appeler ça les métiers du doux. Nous, on est des artisans du doux. Et je vais essayer de faire un cours sur dur-doux, sur soft-hard. La différence hard-soft a été instaurée assez récemment, il y a, disons, quelques décennies, par tous les métiers de l'informatique, où on fait vraiment la différence entre le hard et le soft. Mais c'est une distinction qui aurait pu avoir lieu il y a très longtemps, puisqu'il y avait des métiers, en effet, de sculpteurs ou de graveurs, ou des métiers de forgerons, ou des métiers de paysans, qui travaillaient sur des matières ou dures ou moins dures, mais jamais si soft que le signe. Et vous voyez, j'ai fait une sorte de spectre comme ça, bonjour, de spectre entre le plus dur, je suis commencé par le diamantaire, et je finis par le bavard que je suis, c'est-à-dire celui qui parle, n'est-ce pas ? Et je crois qu'avec ce spectre qui va du plus dur au plus doux, on peut parcourir pratiquement tous les métiers. Tous les métiers. Et donc on peut commencer en disant, ben voilà, on va réfléchir sur les métiers manuels ou les métiers intellectuels. La différence qu'il y a entre un métier manuel et un métier intellectuel, c'est la différence qu'il y a entre le hard et le soft. C'est-à-dire le métier manuel s'occupe du dur, et puis les métiers intellectuels s'occupent du soft. J'hésite dans cette classification un peu. Je vais commencer à la falsifier un peu. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, évidemment ça date du paléolithique supérieur, la classification des métiers était aisée. Pourquoi ? Parce que c'était des conduites du corps. Lorsqu'on voyait, par exemple, un type en jean, en salopette, avec une truelle à la main, on dit « Tiens, voilà un maçon !» N'est-ce pas ? Quand on voyait un homme avec un tablier de cuir tenant une masse devant une enclume, on dit « Tiens, ça c'est un forgeron !» Quand on voyait un homme avec une blouse tachée de vert et de rouge, avec des alambics et des cornues, on dit « Tiens, voilà une chimiste !» Ou alors on voyait une femme aligner les équations au tableau, « Tiens, voilà une mathématicienne !» Donc c'était facile, selon la conduite du corps, de classifier les métiers. On les reconnaissait tout de suite. Tiens, c'est curieux, ça n'arrive plus aujourd'hui. Que vous soyez forgeron, marin, etc., vous rentrez dans une pièce, tout le monde tapote sur un ordinateur. Il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, la conduite, la position du corps ne clarifie pas votre jugement sur le métier que fait la personne. Parce que celui qui tapote sur l'ordinateur, peut-être, figurez-vous que mon père, ça je pour raconter ma vie, c'est pas impudique, mon père était dragueur. Dragueur, ça voulait dire qu'il avait une drague sur un fleuve et qu'il draguait les pierres et les cailloux de ce fleuve. Et c'était facile à le reconnaître. Il était debout sur le ponton de son bateau. Il avait une chaîne de godet qui grattait le fond du fleuve. Tiens, voilà un dragueur. Et récemment, ayant découvert que j'étais fils de dragueur, un grand dragueur d'Anvers et de Rotterdam, vous savez, ces gens-là qui ont des dragues énormes pour draguer les ports, tous les ports du monde, ils sont général hollandais ou belges, m'a invité à visiter la grande drague qui était en train de travailler en mer au large du port de Rotterdam. Et ma grande superfaction, le dragueur, il était où ? Il était devant un écran d'ordinateur. Parce que dans l'écran d'ordinateur, on voyait très bien le fond de la mer, et il mettait sa suceuse à l'endroit qu'il fallait, etc. Voilà, il était lui aussi devant l'écran d'ordinateur. Alors quand même, j'étais absolument stupéfait de cette affaire. Alors vous voyez donc que ma grande préoccupation aujourd'hui, c'est de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui quelque chose un sujet très profond dans cette histoire du dur et du doux. Vous voyez, je suis parti simplement des métiers. D'ailleurs, je reviendrai sur, ces, sur le métier, je reviendrai sur cette affaire-là. Mais y a au moins un proverbe qui est très connu sur ce point, c'est « verba volant scripta manent ». Vous vous souvenez de ça, certains ?« Verba volant », les paroles volent, et « scripta manent », les écrits restent. Et là, même dans le signe, dans ce vieux proverbe, on faisait la différence entre le dur et le doux. Vous remarquez, c'est-à-dire le verbe, et il est simplement lié aux ondes de l'air qui s'effacent, tandis que l'écrit, il a un peu de dur, quoique doux, il emprunte un peu le dur au cuivre ou au papier sur lequel il est imprimé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il reste, tandis que les verbes s'envolent. Alors bon, ce sujet-là est un sujet que je vais étudier du point de vue littéraire, du point de vue historique, du point de vue philosophique, du point de vue qui nous occupe à nous, mais c'est quand même un sujet bien connu et bien repéré et bien étudié dans les sciences physiques, dans les sciences dures. C'est-à-dire, en théorie de l'information, on sait parfaitement ce que c'est que... On sait même évaluer l'énergie de l'échelle informationnelle par rapport à l'échelle anthropique. Et d'ailleurs, on évalue la différence d'énergie entre les unes et les autres à un chiffre absolument astronomique, c'est 10 puissance moins 16. Vous voyez, c'est-à-dire, la différence entre l'énergie dure, l'énergie d'un coup de poing, alors on appelle dur aussi bien la petite chiquenaude que je peux faire à ma voisine qu'un grand coup de poing qu'une bombe atomique. C'est toujours à l'échelle anthropique. Et ce que l'autre, c'est à l'échelle informationnelle du signe seulement. Alors, pour moi, le doux, désormais, ça sera l'empire des signes. Le dur, ça sera tout ce qui est travail manuel et travail en question. Voilà. Alors, premièrement, les métiers. Alors, est-ce que c'est une idée nouvelle ? Eh bien, non, c'est pas une idée nouvelle. Parce que Aristote l'a eu avant moi. Et je ne savais pas qu'il l'avait eu, parce que, par hasard, feuilletant la politique pour d'autres raisons, à l'introduction, Aristote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, fait un livre sur la politique, et j'avais l'idée. Vous savez à quoi sert cet objet ? À quoi sert cet objet ? Nous l'avons acheté un demi-dollar, par exemple. Et il nous sert à boire. Et cette bouteille sert à contenir de l'eau. Et son usage, c'est boire et contenir de l'eau. D'accord ? Très bien. Mais je n'ai pas vraiment soif. Et ma voisine, Christine, a vraiment soif. Alors, je l'ai acheté un demi-dollar, mais je vais lui vendre 2 dollars. Et comme elle a soif, elle va me l'acheter 2 dollars. Oui. Mais comme Claude a beaucoup plus soif que Christine, et Christine va lui dire « Tu veux boire ?» Mais moi, j'en veux 3 dollars. Oui. Alors, cet objet a 2 valeurs, vous l'avez remarqué. Il a une valeur d'usage, c'est-à-dire boire et contenir de l'eau, et puis il a une valeur d'échange. C'est sa valeur, lorsque je le vends à Christine, qui le vend à Claude, qui va le revendre à Marie, à quelqu'un d'autre, par exemple. Et donc, c'est la valeur d'échange. Et on fait en général gloire à Karl Marx d'avoir inventé dans le Capital la distinction entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Eh bien non, elle est chez Aristote. Là, voilà. Vous allez voir à quel point Aristote est profond dans cette affaire. Aristote nous dit... alors, je prends l'acquisition artificielle ou crématistique. J'expliquerai le mot crématistique tout à l'heure. Il y a donc, nous en avons maintenant démontré la raison, un genre de richesse naturelle propre à l'économie domestique comme à l'économie politique. Mais il existe aussi un autre genre de biens et de moyens qu'on appelle communément et avec raison spéculatif et qui paraît n'avoir point de borne. Attention. Lorsque je prends la bouteille avec l'eau, il y a une borne à l'usage. C'est-à-dire, j'ai soif, je n'ai plus soif. Ou, elle contient un demi-litre, elle ne contient pas plus. Donc, dans chaque cas, lorsqu'on parle de valeur d'usage, il y a une borne. Mais, lorsque je vends cette bouteille à Christine qui la vend à Claude qui le revend, etc., alors le commerce en question ne va plus avoir de borne. C'est-à-dire, on peut toujours trouver quelqu'un qui a assez soif pour payer cette bouteille 100 dollars s'il traverse le Sahara, ou 1000 dollars s'il traverse le désert du Kalahari, vous voyez, ou 1000 dollars s'il traverse le désert de Gobi. Vous voyez ? Donc, à ce moment-là, la valeur d'usage n'a plus aucune, n'a plus aucun rapport avec quoi que ce soit. De quoi je parle en ce moment ? Vous remarquez que je parle de M. Madoff. Hein ? Je parle de la crise. Je parle de la crise. Je parle vraiment de la crise. Vous l'avez remarqué ? Oui. Et vous allez voir que cette crise-là, Aristote l'avait parfaitement prévue. Voici. On y va. Mais il existe un autre genre de biens et de moyens qu'on appelle communément et avec raison spéculatif et qui paraît n'avoir point de borne. Et c'est sur ce point que Aristote va réfléchir. Quelques-uns les confondent avec les richesses dont on vient de parler à cause de leur affinité. Quoi qu'ils n'en soient pas bien éloignés, ce n'est pourtant pas la même chose. Les premières sont naturelles. Alors vous avez remarqué, il est naturel de boire, il est naturel de mettre de l'eau dans la bouteille. Mais ceux-ci ne sont point, mais un produit de l'art et de l'expérience. Je m'explique. Entrons en matière, dit Aristote, par l'observation qui suit. Chacune des choses que nous possédons a deux usages, dont aucun ne répugne à la nature, mais pourtant, l'un est propre et conforme à sa destination, l'autre détourné à une autre fin. Par exemple, l'usage propre d'un soulier est de chausser. Et ça, c'est la valeur d'usage. Vous prenez un soulier, il est bon pour votre pied. Mais on peut aussi le vendre et l'échanger pour se procurer de l'argent ou du pain ou quelque autre chose, et cela sans qu'il change de nature. Mais tel n'est pas là son usage propre, n'ayant pas été inventé pour le commerce. Il a été inventé pour la valeur d'usage. Il n'a pas été inventé pour la valeur d'échange. C'est une plaisanterie qu'on connaît très bien, où le commerçant a des pantalons normaux, et d'autres, il a un pantalon dont une jambe est entièrement coupée. Et il le vend, il vend la seconde, et l'autre le vend, et il fait comme Madoff, vous voyez. Et à la fin, on dit, mais ce pantalon, il sert à rien. Ah non, 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 c'est pas un pantalon pour mettre, c'est un pantalon pour vendre. Vous voyez ? Et c'est une plaisanterie qui est connue chez les commerçants, n'est-ce pas ? Mais qui distingue bien l'objet qui est fait pour l'usage et l'objet qui est fait pour les gens. Et Aristote l'avait parfaitement bien vu, et il dit, dans ce cas-là, il en va de même des autres choses que nous possédons, alors de la bouteille d'eau ou n'importe quoi d'autre. La nature ne les a pas faites pour être échangées, mais dans le cas du soulier pour être mis, ou dans le cas de l'eau pour être bu, mais les hommes, en ayant les uns plus, les autres moins qu'il leur en faut, ce hasard les a amenés à l'échange. Et il fait comme il dit que l'échange entre les hommes est venu du fait que les objets qui avaient de l'usage, eh bien, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, et finalement ils les ont échangés. Ce en quoi Aristote a tort, je le démontrerai tout à l'heure. Ce en quoi Aristote a tort, je le démontrerai tout à l'heure. Ce n'est pas non plus la nature qui a produit le commerce consistant à acheter pour revendre plus cher. C'est ce que j'ai fait avec Christine, qu'il a fait avec Claude. L'échange étant un expédient nécessaire pour procurer à chacun de quoi suffire à ses besoins. Il n'en fallait point dans la société primitive des familles où tout était commun. Il n'est devenu nécessaire que dans les grandes sociétés et après la séparation des propriétés. Il est encore usité chez quelques peuples barbares. Quand une peuplade a trop ce que l'autre a de moins, elles se transmettent leur superflu par des échanges réciproques. Du vin pour du blé ou autre chose qui pourrait être à leur usage, rien de plus. Genre de commerce qui n'est ni hors des intentions de la nature, ni pourtant aucune manière naturelle d'augmenter son avoir, mais une manière ingénieuse de remplir nos besoins. Oui, si j'ai trop de vin et si tu as trop de blé, si tu as soif et moins faim, ben on va échanger nos superflus. Très bien. C'est ce commerce qui, dirigé par la raison, a fait imaginer la ressource de la monnaie. Alors, là, de nouveau, Aristote a tort, je le démontrerai. Alors, vous allez me poser deux questions à la fin. Pourquoi vous dites que c'est le hasard qui a amené l'échange, et deuxièmement, pourquoi Aristote a tort de dire que la monnaie a été inventée pour ça. Il n'était pas commode, alors ça c'est très astucieux, c'est le premier qui le dit dans la recherche d'économie. Je ne suis pas sûr que c'est le premier, je crois que le livre de Joseph dans la Bible l'avait déjà dit. Je tiens le livre de Joseph dans la Bible pour le premier manuel d'économie politique. J'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Il n'était pas commode de transporter au loin les denrées ou d'autres productions. Alors, imaginez une caravane chargée de blé et qui espère le vendre dans une contrée lointaine. Oui, mais elle peut arriver dans cette contrée lointaine au moment où la moisson est en train de se faire et où la moisson est excédentaire. Donc elle ne pourra pas écouler son blé. De la même façon, si elle porte des tonneaux de vin, elle va tomber chez des vignerons qui ont un excédent de vin. Donc on ne peut pas prévoir l'échange. Et voilà. Il n'était pas commode de transporter au loin les denrées lourdes, donc, et autres productions pour en rapporter d'autres, sans être sûr d'y trouver celles qu'on recherchait, ni si celles qu'on y portait conviendraient. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il pouvait arriver ou qu'on n'eût pas besoin du superflu des autres, ou qu'ils n'eussent pas besoin de notre superflu à nous. On convient donc de se donner, de recevoir réciproquement en échange quelque autre chose qui, outre sa valeur intrinsèque, eut la commodité d'être plus maniable et d'un transport plus facile. Alors vous pouvez souligner ça, la commodité d'être plus maniable et d'un transport plus facile, tel que du métal, du fer, de l'argent, soit tout autre qu'on détermina d'abord par son volume, par son poids, et qu'ensuite on marqua d'un signe distinctif, j'y suis, de sa valeur, pour n'avoir pas la peine de le mesurer ou de puiser à tout moment. Voilà. Alors, il est en train de dire précisément le contraire de ce qu'il a dit tout à l'heure. Parce qu'il a dit, c'est à cause de l'échange qu'on a inventé la monnaie. Mais j'en suis pas complètement sûr. Parce qu'il est vrai, il a raison de dire que la monnaie était finalement plus facile à transporter au loin que des barriques de vin, que des tonneaux de blé ou que toute autre matière pondéreuse. Donc, qu'est-ce que l'argent ? C'est du doux par rapport à du dur. Là, il l'a dit. C'est-à-dire, puisque je ne peux pas transporter du dur qui est lourd, alors je prends du plus léger. Et déjà, il y a un mouvement vers le léger. Vous voyez ? L'argent qui était autrefois du lourd devient un tout petit peu plus léger. Là, il a raison. Mais cet argent, nous l'appelons l'argent. Et comme nous l'appelons l'argent, nous croyons que c'est de l'argent, du métal argent. Oui, ça a été du métal argent. Ça a été d'ailleurs de l'or, puis de l'argent. Mais à un certain moment, on dit la valeur or, ça n'intéresse pas. Pourquoi de l'or ? Ça pourrait être, par exemple, disons, de n'importe quel métal. Alors on va faire des pièces en autre métal. C'est pas le métal qui compte. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est qui est marqué sur le métal 1 dollar, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Et nous sommes d'accord pour accorder à ce dollar la valeur 100, la valeur 200, la valeur 1000 ou la valeur 1. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est du papier. Le billet de 100 dollars, il est ni plus grand, ni plus lourd, ni plus dur que le billet de 1 dollar. Et pourquoi vous lui donnez la valeur 100 dollars ? Parce qu'on est tous d'accord sur le chiffre 100. Par conséquent, la valeur, c'est 100. C'est pas l'excédent des circonstances qui a fait inventer la monnaie. C'est le passage du dur au doux. Compris ? C'est-à-dire que la question dans la valeur d'échange, la question c'est pas de savoir vous voulez cette bouteille d'eau. Oui, mais pour le moment j'ai pas soif. Eh bien, si vous n'avez pas soif, gardez-la. Donnez-moi 100 dollars. Et puis, quand vous aurez soif, vous en servirez. Et d'accord. Mais dans ce cas-là, moi, je vais retirer de ça 100 dollars. Mais la valeur, ça ne sera pas la bouteille. Ce ne sera pas l'argent. Ça ne sera pas l'or. Ça ne sera pas le métal. Ça ne sera pas le poids. Non, ça sera ce qui est marqué sur. Mais le support, on s'en fout. Le support en question, qu'il soit de l'or, de l'argent, etc., ça nous est égal. L'essentiel, c'est le signe. D'accord ? Très bien. Vous avez compris ça ? Alors, maintenant, prenez la femme de la fontaine, je vous prie. Je vais un peu vite, mais si vous avez compris le passage à la monnaie, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il a tort de parler de l'échange. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre de mon étable une vache, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée, le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvée, la dame de ses biens, quittant d'un air mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce fut fait, on l'appela Bourdelais. Il faut excuser quand même ce mari qui bat sa femme, qui le dévoute complètement. Je n'aime pas ce mari-là. Ce mari n'a rien à faire dans cette fable. J'ai envie de lui donner moi deux gifles à ce mari-là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des mots et des adjectifs disant légère, rapide. Vous voyez ? Ayant un pot au lait, légère et court vêtue, elle a l'air, ayant mis sur la pot plus agile, cotillon simple, souliers plats. Vous voyez ? Elle va à toute vitesse, n'est-ce pas ? Mais, attendez. Il y a eu la crise économique récemment, la crise financière, la crise Madoff. Vous connaissez ça par cœur, vous avez lu les journaux. Je veux vous raconter de nouveau ma vie. Un grand PDG d'une grande banque française me convoque et me dit: Michel, qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? Je suis très embêté, etc. Et je lui ai répondu: écoute, René, que les Américains aient eu des problèmes avec la crise financière, je le comprends vraiment. Je comprends vraiment. Mais toi, tu as quand même su par cœur, dès l'âge de 7 ans, la laitière et le pot au lait. Que les Américains se soient fait avoir, ils n'ont pas appris par cœur la laitière et le pot au lait. Mais toi, tu la savais, la laitière et le pot au lait. Tu sais bien que le lait tombe, couillon. Tu le vois que le lait tombe. Et pourquoi il est tombe? Eh bien, parce qu'il est dur. Et ils font confiance au doux. Mais le doux, c'est une convention, c'est rien du tout. C'est complètement évanoui. Que la vraie valeur, c'est le lait. N'est-ce pas, René? Ah, il me dit, tu crois que c'est une affaire de La Fontaine? Ah, oui. Le vrai sujet de mon cours est dans ces deux textes. Vous voyez, la différence qu'il y a entre valeur d'usage et valeur d'échange. Qu'est-ce que la monnaie? La monnaie, mesdames et messieurs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le capital, c'est le signe. Et c'est pas commode à dire, ça. C'est pas commode à dire. Et faites-moi penser à la fin du cours que je vous explique pourquoi c'est le signe, comment ce n'est pas l'or. Parce que c'est là ce qui est le plus décisif dans cette affaire. Donc je m'arrête un peu. Nous reviendrons sur Aristote. Ce qui gêne Aristote, c'est que quand la bouteille est vide, mon besoin est tari. Et l'objet n'est plus là. Tandis que dans la valeur d'échange, c'est infini. L'objet ne bouge pas, il passe de main en main, et il va à toute vitesse, et il va de plus en plus vite. Je vous ferai observer dans cette affaire-là que, contrairement à toutes les lectures de tous les commentateurs qui ont parlé de la fable de la laitière et le pot au lait, y compris La Fontaine, je le crois que la laitière a fait un mauvais calcul. Mais si je regarde le calcul de la laitière, non seulement il est parfait, mais je ne connais aucun commerçant, aucun industriel, aucun homme d'affaires, aucun banquier, aucun trader qui fasse autrement. Il fait exactement ça, c'est-à-dire elle vend son lait, avec ça elle achète des œufs, avec ça elle achète des poules, avec ça etc. etc. Et ça n'a pas de fin en effet. Parce que pourquoi s'arrêter à la vache et à son veau dans le... Elle pourrait vendre la vache et le veau pour acheter un tracteur. Et puis vendre le tracteur pour acheter, etc. Et du coup, il y a un cycle infini dont parle Aristote. Et il dit, c'est le cycle infini qui est à la base de tous nos maux. Et d'ailleurs, quand une bulle crève, c'est qu'on sait bien qu'elle ne peut pas arriver à son infini. Vous voyez ? La crise, c'est ça. Madoff, c'est ça. Madoff devait savoir dès le départ qu'il se casserait la gueule, forcément, puisqu'il payait les intérêts avec l'argent qui lui rentrait. Bon, c'est infini, en effet, mais c'est infini tant que quoi ? Mais tant que la confiance règne. Mais qu'est-ce que c'est la confiance ? C'est la convention. Qu'est-ce que c'est l'argent ? C'est la convention. Tout est dans la convention. Tout est dans le doux. Et toute la question, précisément, est d'essayer de réfléchir vraiment sur la différence qu'il y a entre le dur, alors là maintenant j'ai commencé par le diamant, ça tombe bien, et puis le doux, ce qu'on inscrit sur le diamant, à toi ma chérie, pour la vie. Hein. Ça c'est important, c'est la convention entre nous. Très bien. Alors voilà pour les métiers, voilà pour l'argent, et j'essaie de monter une échelle de plus. Alors, je repars. Je suis parlé du diamant, qui est la chose la plus dure, et je laisse de côté pour le moment les métiers, l'argent, j'y reviendrai. Et maintenant, la puissance des nations. À quoi vous reconnaissez une nation puissante ? C'est très simple. Les pyramides d'Égypte. Quand vous visitez les pyramides, vous dites « l'Égypte était une grande nation ». La muraille de Chine. Hein, la muraille de Chine, elle est visible de la Lune. C'est un truc absolument gigantesque. Colisée. Le Colisée de Rome, que je sache, c'est de ce mot-là qu'on a tiré colossal. C'est le Colosseo, colossal, n'est-ce pas ? Les pyramides d'Égypte, colossales. Vous savez qu'il y a eu une bataille de Bonaparte au pied des pyramides. Du haut de ces pyramides, 48 vous contemplez. Et vous savez ce qu'il a fait, après avoir dit ça, ce qu'il a fait ? Il a commandé à un de ses lieutenants de calculer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les pierres d'une seule pyramide. Et il a calculé qu'avec les pierres de ces pyramides, on pourrait entourer la totalité de la France d'un mur de 10 mètres de haut. On ne se rend pas compte du caractère colossal des pyramides. Mais la muraille de Chine, les pyramides, qu'est-ce qu'on pourrait... Le Colisée de Rome, les cathédrales en France. Les cathédrales, c'est absolument colossal, n'est-ce pas ? Le château de Versailles, le château de Vaux-le-Vicomte, le château de la Loire, etc. Et les Twin Towers, l'Empire State Building. Vous voyez ? C'est le dur. C'est le dur, n'est-ce pas ? Voilà. Alors... toute l'histoire que vous avez appris en classe, je voudrais maintenant fusiller la totalité de l'histoire que vous savez dans la tête. C'est-à-dire qu'au fond, on vous a mis dans la tête qu'une puissance était d'autant plus puissante qu'elle avait un symbole colossal. C'est ça, la puissance énorme des pyramides d'Égypte. Mais où est l'Égypte ? Excusez-moi. Il n'y a plus d'Égypte. Le Colisée de Rome, où est Rome ? Il n'y a plus de Rome. Vous l'avez remis. Le symbole de la puissance athénienne, c'était que Périclès avait construit un mur colossal qui allait du Pirée à Athènes. Où il est ? Il n'y en a plus pierre sur pierre, n'est-ce pas ? Le théorème que je veux démontrer, c'est que le dur ne dure pas. Le dur ne dure pas. Il n'y a que le doux qui dure. Voilà. Le théorème de Michel Serres, c'est que vous mettez au fronton de ce cours. Le dur ne dure pas, il n'y a que le doux qui dure. Voilà. Le dur ne dure pas, il n'y a que le doux qui dure. D'ailleurs, si les cathédrales durent encore, ce n'est pas parce que c'est une masse de pierre. C'est simplement parce que c'est un signe d'autre chose. Tout simplement. Si ça dure, c'est que c'est un signe d'autre chose. C'est un peu une convention entre nous, comme on a dit pour l'argent tout à l'heure. Je mets complètement en doute aujourd'hui cette histoire que nous avons apprise et qui tient au fait que les historiens aimaient beaucoup ce type de dureté, n'est-ce pas ? Par exemple, on a fait un grand cas de la révolution industrielle, c'était admirable. Vous vous rappelez, la révolution industrielle, vous avez appris ça en classe. n'est-ce pas, la machine à vapeur, et puis Zola, on parlera de Zola tout à l'heure, je ferai un cours, je crois qu'il s'appellera « Le contresens de Zola sur la gare de la bête humaine », vous avez tous vu la bête humaine. Et je vais faire mon cours là tout à l'heure en prenant le contre-pied de cette histoire-là. D'accord, on va s'amuser à ça tout à l'heure. Très bien. Mais quand même, cette histoire-là, magnifie la puissance des nations avec les réalisations symboliques extraordinaires de ces amas de pierres, etc. Cette histoire-là, elle a commencé comment ? Eh bien, Hésiode nous le dit très bien. Alors, Aristote, La Fontaine, Hésiode. Alors, Hésiode est un poète grec. Les premiers grands textes poétiques grecs sont du 8e, 7e avant Jésus-Christ. Et il y a deux grands auteurs, c'est Homère et Hésiode. Il y a une grande différence entre Homère et Hésiode. Peut-être certains d'entre vous ont-ils lu l'Iliade un peu, l'Odyssée beaucoup. Je vous conseille de lire l'Odyssée tous les soirs. C'est une grande merveille de l'humanité. Et dans l'Iliade et l'Odyssée, les héros, qui s'appellent Ajax, Achille, mais surtout Ulysse, puisque Ulysse est le principal héros de... Quand ils vivent, quand ils naviguent, quand ils se battent, etc., il leur arrive fréquemment de rencontrer au détour du chemin une déesse. Moi, ça ne m'est pas souvent arrivé, je reviens. Une déesse ou un dieu, vous voyez, et ce dieu ou cette déesse lui disent « Écoute, Ulysse, il faut faire ça, etc. » Donc, il y a un monde chez Homère qui est à la fois humain et divin, entièrement mélangé. Vous voyez ? C'est-à-dire, l'homme a l'expérience directe du divin. C'est ça qui fait la beauté surnaturelle de l'Odyssée ou de certaines scènes de l'Iliade. Parce que l'expérience humaine est complètement plongée dans l'expérience divine. On rencontre des dieux au carrefour. Tandis que chez Hésiode, Hésiode a deux poèmes où il coupe en deux cette expérience. Il a un poème qui s'appelle la Théogonie. La Théogonie, T-H-E-O-G-O-N-I-E, la Théogonie, où il fait la généalogie des dieux. C'est-à-dire, à partir du chaos, les dieux s'engendrent les uns les autres. On va les laisser de côté, c'est les dieux. Et puis, il fait un second poème qui s'appelle Les travaux et les jours, et il parle de l'histoire humaine. Et c'est de celui-là que je veux parler. Alors, la Théogonie, c'est la généalogie des dieux, et les travaux et les jours, c'est l'histoire humaine. Comment se déroule l'histoire humaine ? Eh bien, elle se déroule en 5 périodes. Mais nous allons les voir, ces périodes-là. Vous voulez ? Allons-y. Alors, vous avez vu, il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain. On va sauter à pieds joints sur le quatrième, et l'âge de fer. Allons-y. L'âge d'or. Quand les hommes et les dieux furent nés ensemble, d'abord les célestes habitants de l'Olympe créèrent l'âge d'or pour les mortels doués de la parole. Sous le règne de Saturne qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient comme des dieux. Ils étaient libres d'inquiétudes, de travaux et de souffrances. La cruelle vieillesse ne les affligeait point. Leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur. Et, loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins, riches en fruits délicieux et chers aux bienheureux immortels. Ils mouraient comme enchaînés dans un doux sommeil. Tous les biens naissaient autour d'eux. La terre fertile produisait d'elle-même d'abondants trésors. Libres et paisibles, ils partageaient leurs richesses avec une foule de vertueux amis. Quand la terre eut refermé dans son sein cette première génération, ces hommes, appelés les génies terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels. Ils observent leurs bonnes et leurs mauvaises actions et, enveloppé d'un nuage, parcourt toute la terre en répandant la richesse, telle est la royale prérogative qu'ils ont obtenue. L'âge d'argent. Ensuite, les habitants de l'Olympe produisirent une seconde race bien inférieure à la première, l'âge d'argent, qui ne ressemblait à l'âge d'or ni pour la force du corps ni pour l'intelligence. Nourri par les soins de sa mère, l'enfant, toujours inepte, croissait durant 100 ans dans la maison natale. Parvenu au terme de la puberté et de l'adolescence, il ne vivait qu'un petit nombre d'années, accablé de ses douleurs, triste fruit de sa stupidité, car alors les hommes ne pouvaient s'abstenir de l'injustice. Ils ne voulaient pas adorer les dieux ni offrir leurs sacrifices sur le pieux autel, comme doivent le faire les mortels divisés par tribus. Bientôt, Jupiter, fils de Saturne, les anéantit, courroucé de ce qu'ils refusaient leurs hommages aux dieux habitants de l'Olympe. Quand la terre eut dans son sein renfermé leurs dépouilles, on les nomma les mortels bienheureux. Ces génies terrestres n'occupent que le second rang, mais le respect accompagne aussi leur mémoire. L'âge des reins. Le père des dieux créa une troisième génération d'hommes doués de la parole, l'âge des reins, qui ne ressemblait en rien à l'âge d'argent. Robustes comme le frêne, ces hommes, violents et terribles, ne se plaisaient qu'aux injures et aux sanglants travaux de Mars. Ils ne se nourrissaient pas des fruits de la terre et leur cœur impitoyable avait la dureté de l'acier. Leur force était immense, indomptable, et des bras invincibles s'allongeaient sur leurs épaules de leurs membres nerveux. Ils portaient des armes d'airain, les reins composaient leur maison. Ils ne travaillaient que les reins, car le fer noir n'existait pas encore. Égorgés par leurs propres mains, ils descendirent dans la ténébreuse demeure du froid Pluton, sans laisser un nom après eux. Malgré leur force redoutable, la sombre mort les saisit et ils quittèrent la brillante lumière du soleil. L'âge de fer. Plutôt Dieu que je ne vécusse pas au milieu de la cinquième génération, que ne suis-je mort avant, que ne puis-je naître après? C'est l'âge de fer qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront ni de travailler, ni de souffrir pendant le jour, ni de se corrompre pendant la nuit. Les dieux leur enverront de terribles calamités. Toutefois, quelques biens se mêleront à tant de maux. Jupiter détruira cette race d'hommes doués de la parole lorsque, presque dès leur naissance, leurs cheveux blanchiront. Le père ne sera plus ni à son fils, ni le fils à son père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son ami. Le frère, comme auparavant, ne sera plus chéri de son frère. Les enfants mépriseront la vieillesse de leurs parents, les cruels. Ils accableront d'injurieux reproches sans redouter la vengeance divine. Dans leur coupable brutalité, ils ne rendront pas à leur père les soins que leur enfant sera reçu. L'un ravagera la cité de l'autre, on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu. On honorera de préférence l'homme vicieux et insolent. L'équité et la pudeur ne sera plus en usage. Le méchant outragera le mortel vertueux par des discours pleins d'astuces auxquels il joindra le parjure. L'envie au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans relâche les hommes infortunés. Alors, promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la pudeur et la vengeance, Némésis et la vengeance, enveloppant leur corps gracieux de leur robe blanche, s'envoleront vers les célestes tribus et abandonneront les humains. Il ne restera plus aux mortels que des chagrins dévorants et leurs maux seront irrémédiables. Vous avez entendu le ronchon d'aujourd'hui qui dit que toutes les valeurs disparaissent. Vous savez, c'est le vieux ronchon d'aujourd'hui. Et c'est l'idée de l'histoire qui nos pères étaient heureux, c'était vraiment le bon temps. Tu vois, parce que ça ne fait que descendre et aujourd'hui, les enfants sont mauvais, ils ne respectent plus leurs parents. Enfin, vous savez, la perte des valeurs, vous entendez ça régulièrement chez les vieux ronchons qui sont majorité aujourd'hui, légion aujourd'hui. Mais enfin, ça, c'est une philosophie de l'histoire où réellement c'est le mouvement de la décadence qui on pourrait inverser l'affaire et dire que autrefois ça allait très mal et ça va de mieux en mieux. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas du tout ce que le ronchon raconte. Parce que le vieux ronchon, on l'entend assez, c'est pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, comme pour tous les historiens qui vont enseigner l'histoire, pour lui, ce sont des métaux qui scandent les âges successifs de l'humain. C'est l'or, l'argent, les reins, le fer. L'histoire est dure. Le symbole de l'histoire, le symbole des airs, c'est des métaux. C'est-à-dire, c'est finalement... Dans l'âge d'or, c'est l'âge du diamantaire dont je parlais tout à l'heure. L'âge d'argent, c'est finalement l'âge du banquier. L'âge des reins, c'est celui qui est de la lutte et des cuirasses. Et l'âge de fer, c'est l'âge des automobiles et des sous-marins. Bon, ça va. Mais de toute façon, cette histoire-là, vous l'avez apprise comme ça. C'est pas la question du gradient de croissance ou de décroissance qui est intéressant. C'est-à-dire de dire « Ah, c'était beaucoup mieux avant, c'est moins bien maintenant. » À partir de Condorcet, on dit le contraire. « Ah, c'était très mal avant et maintenant, c'est le progrès, c'est mieux. » Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment vous concevez l'histoire. À partir de quoi ? Quelle est la chose qui le scande ? Réponse, c'est le métal. C'est l'or, c'est l'argent, c'est les reins. L'histoire est dure. Voilà, ça m'intéresse. Ça, c'est intéressant. Le fait de la valeur, bon, hein, c'est pour les vieux grognons, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme disent les médecins de Molière, nous avons changé tout cela. Ça, c'est le vieux théoricien de l'histoire, l'âge d'or, l'âge d'argent, etc. C'est-à-dire que nous avons la science, nous avons la paléanthropologie, nous sommes des préhistoriens et nous classons l'histoire tout à fait autrement. Et comment nous faisons, nous ? Ah ben c'est très simple. Il y a le paléolithique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quand je suis né, hein, le paléolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, n'est-ce pas ? Et puis l'âge de la pierre polie. Vous vous rappelez de ça, le néolithique. C'est-à-dire, nous étions, dit Yves Coppens et tous les anthropologues, paléo-anthropologues, nous étions chasseurs-cueilleurs à l'époque de la pierre taillée, et à partir de 10 000, 12 000 ans, nous sommes devenus agriculteurs et pasteurs. Nous avons domestiqué certaines espèces de faune et de flore à partir du néolithique. Mais toute notre histoire est lithique. Au lieu d'avoir des métaux, c'est de la pierre. Mais c'est toujours du dur. Vous voyez ? Et c'est de nouveau comme ça que nous concevons l'histoire. Ou avec des métaux ou avec des pierres. Hein ? Et moi, je vous propose de changer l'histoire et on va faire une histoire du doux. Et non pas une histoire du dur. L'histoire. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des métiers et des occupations des hommes, et j'ai vu la dérive du dur vers le doux. Vous voyez, comment nos métiers, et ici dans la Silicon Valley, on le sait mieux que personne, que comment les métiers se dérivaient vers le doux. Et maintenant, je vous fais voir la vieille histoire, l'histoire que vous avez apprise, l'histoire des dinosaures, c'est-à-dire à la papa, qui sont toujours ou indexés sur du métal ou indexés sur de la pierre. Eh bien, nous allons l'indexer sur autre chose. D'accord ? Voilà. Ça, c'est l'histoire dure d'autrefois. Alors maintenant, je vais faire mon cours sur l'histoire d'aujourd'hui. D'accord ? Alors, les trois textes que je vous ai montrés, chez Aristote, c'était un texte d'économie avec valeur d'usage, valeur d'échange, et qui pouvait à la rigueur aussi passer du dur au doux, c'est-à-dire l'usage était d'une certaine façon, il dit naturel, lui, et puis naturel conventionnel, hein, c'est ça, la convention. Dans le cas de La Fontaine, c'est la même chose. Ce qui est naturel, c'est le lait, n'est-ce pas ? Et puis, l'histoire, c'est-à-dire Hésiode. Et c'est là que vous me posez la question, mais monsieur, vous avez dit que vous expliqueriez comment la monnaie était née, autrement qu'Aristote, et monsieur, vous allez me dire pourquoi il se trompe sur l'échange. Alors, il est intéressant, alors, jusqu'à maintenant, j'ai traité du dur avec sa dérive vers le doux et j'ai terminé sur l'histoire. Et maintenant, je fais la seconde partie de mon cours qu'arriverait-il si on déployait devant nous une histoire du doux et non pas une histoire du dur, non pas avec le métal, non pas avec la pierre, mais avec le doux, ce qu'on appelle aujourd'hui le soft. Alors, je reviens dans une période qui doit être celle d'Hésiode, ou celle un peu après Homère et Hésiode. Il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire pour nous dans l'écart qu'il y a entre la Grèce européenne et le littoral turc d'aujourd'hui. Vous voyez, le littoral turc qui fait face, qui s'appelle l'Ionie, et qui fait face à la Grèce avec tout le semi-d'île, d'îles et d'îlots qui est entre le littoral Ionie et cette Grèce-là. Il s'est passé là, vers les périodes entre Hésiode et Aristote, exactement entre Hésiode et Aristote, c'est-à-dire entre le moment mythique des poètes et le moment où Aristote écrit dans la génération postérieure à Platon. Il se passe là trois ou quatre choses que je voudrais vous raconter. Il y a au milieu du littoral turc, là, qui est pratiquement nord-sud, vous voyez, une petite rivière qui n'a plus évidemment ce nom-là, et cette petite rivière s'appelait en grec le Pactole. C'est intéressant, le Pactole. Et on raconte que c'est là que serait née la monnaie. Et c'était un royaume qu'on appelait la Lydie, le nom importe peu. Et là, il y a des légendes qui ont été beaucoup racontées à cette époque. Et en particulier, la légende du roi Midas. Vous vous rappelez du roi Midas? Un roi fabuleux qui avait obtenu des dieux, parce qu'il était assez rapace, enfin assez avare, que toutes les choses qu'il toucherait se transformeraient en or. Et les dieux lui ont accordé que tout se transformerait en or dans ce qu'il touchait. Seulement, et c'est là où Aristote se met à avoir raison de façon étrange, parce que la fable lui donne raison, c'est-à-dire dès que tu touches quelque chose et que ça se transforme en or, tu vas devenir très riche. Et oui, mais tu as quand même besoin de boire et de manger. Et qu'est-ce qui arriverait si se transformait en or cette eau que je suis en train de tenir à la main? Je ne pourrais plus boire. Et si je prends le pain et si se transformait en or, je ne pourrais plus manger. Et la viande également. Au bout d'un certain temps, transformer tout en or finit par rendre catastrophique la valeur d'usage. Nous y sommes. D'accord? Donc, s'il n'y a que des valeurs d'échange, Donc, la série infinie de l'échange, qui me permet d'être de plus en plus riche à la manière de Médoff, n'est-ce pas, doit avoir un terme. Et le terme est donné par la légende de ce pays-là. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est simplement pour donner raison à Aristote. Mais il s'est passé là, on est à peu près sûr que c'est là qu'est née la monnaie. D'ailleurs, je l'avais dit un jour, mais Audrey doit s'en souvenir, que tout notre vocabulaire financier vient de l'époque où il n'y avait pas la monnaie. Le savez-vous, ça? Par exemple, le mot « capital », qui est le même mot que « cheptel », c'est les têtes de bétail. « Capital », c'est les têtes de bétail. « Capital », c'est « cattle ». « Capital », »,« cattle », c'est le même mot. De la même façon, « pécuniaire ». « Pécuniaire », c'est « pécus », le troupeau. Oui. Et etc. C'est-à-dire, il y a un grand nombre de mots qui restent en souvenir de l'époque du dur, de l'époque où ce qui était échangé, c'était des bêtes de troupeau, du blé, du vin, etc. Des choses pondéreuses et lourdes. Alors, comment a-t-on inventé la monnaie? Une des choses où Aristote a raison, c'est qu'en effet, il est plus facile de transporter. Oui, mais j'avais utilisé, moi, quand j'étais plus jeune, le même argument pour l'histoire des religions. Comment est-on passé, chers amis, du polythéisme au monothéisme? Ben, il me semble que les polythéistes adoraient des dieux nombreux et qu'ils vénéraient sous la forme de statues en marbre, de statues en bronze, de statues en airain et quelquefois de statues en or. Mais pour qu'ils puissent les vénérer, ils allaient dans les temples. Pour qu'ils aillent dans les temples, il fallait qu'ils ne bougent pas. Oui, mais les Hébreux, eux, ils bougeaient. C'était des pasteurs, c'était pas des agriculteurs. Et vous croyez qu'ils allaient transporter dans le désert, pendant les 40 ans qu'ils y étaient, des statues en bronze, des statues en marbre, des statues, etc. Non, il a fallu quand même que leur Dieu soit un peu plus léger. Qu'il soit pas dur, qu'il soit doux. Le plus doux possible, le plus doux, le plus doux. Et qu'est-ce que c'était? C'était un mot. Et voilà. Comment Jéhovah peut être né, oui. C'est-à-dire, les religions monothéistes sont dites religions du livre ou religions de l'écriture sainte simplement parce que on est passé du dur au doux. Nous y sommes. Vous voyez ? Et alors, pour inventer la monnaie, il a fallu faire le même geste. Comment l'ont-ils fait ? Je ne sais pas. Mais je vais essayer de réfléchir là-dessus. Alors, la monnaie est inventée là, autour du fleuve Pactole, dans les 6e, 7e siècles avant Jésus-Christ. Mais au même endroit, mais sur la rive là, pas loin de là, à Milet, un certain Thalès invente la géométrie. Ah, pardon, il y a une île en face où est né Pythagore à Samos, et il a inventé les chiffres. Tiens, c'est curieux, mais pas loin de là, il y avait aussi une ville sur la même rive où il y avait Héraclite qui a inventé la physique. Et tous ces gens-là naissent en même temps, mais qu'est-ce qu'ils inventent là? Qu'est-ce qu'ils inventent là? Avec l'argent, avec la géométrie, etc. La même chose. La même chose. Parce que à Cnide, un certain Eudoxe va inventer l'algèbre. Qu'est-ce qu'ils inventent? Au même endroit, au même moment, on invente l'écriture. C'est-à-dire, vous savez, les lettres, alpha, bêta, gamma, etc. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette invention commune? Que ce soit l'argent, que ce soit l'abstraction géométrique, que ce soit l'algèbre, que ce soit... c'est l'émergence du doux, de nouveau. Vous voyez ? C'est-à-dire la valeur donnée au signe. La valeur donnée au signe. C'est-à-dire l'argent, il n'est pas né de l'échange, il est né dans une vague extraordinaire qui a pris tout la Méditerranée orientale dans les années en question, entre Hésiode et Aristote, à une vague énorme qui a été l'assomption du doux. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, vous voyez ? Sous toutes ses formes, c'est-à-dire sous la forme de la monnaie, sous la forme de... vous vous rendez compte, le premier mot de la géométrie d'Euclide, c'est « sema ». Sema, S, sigma, sema, ça veut dire le signe, c'est le point. Le point est sans dimension. C'est rien du tout. C'est un point sur la page. Et c'est le premier mot de toute la géométrie d'Euclide. Et que serions-nous sans la géométrie d'Euclide? On n'aurait pas la science. Donc là, mon histoire du doux pourrait sans doute commencer là. Commencer là. Et là, au 5e siècle, arrive un philosophe qui est de la génération d'avant Aristote et qui s'appelle Platon. Vous avez tous entendu parler de Platon. Et il invente un mot que vous utilisez absolument tous les jours, presque dans toutes les phrases. C'est le mot « idée ». Idée. J'ai une idée. Alors, regardez bien le mot « idée ». C'est lui qui invente l'idée. L'idée de lit. Vous savez, il y a de multiplicité de lits concrets, mais on ne peut penser chaque lit concret que parce qu'on a l'idée du lit. Il y a beaucoup de femmes ici, on ne peut penser chaque femme en particulier parce qu'on a l'idée de femme. C'est l'idée platonicienne. Mais si vous regardez le mot idée, vous vous apercevez que c'est la même chose que ce que j'ai dit des Hébreux tout à l'heure. J'ai dit ça des Juifs, vous savez, qui ne pouvait pas transporter comme ça, etc. Mais c'est le mot idole, le mot idée. Eh, c'est le même mot. C'est-à-dire, le mot idole, c'est du doux, c'est du dur. L'idole, elle est en marbre, l'idole, elle est en airain, l'idée, elle est en bronze, etc. Mais l'idée, elle est parfaitement abstraite. Elle n'existe pas, elle est ailleurs, n'est-ce pas? Et cet abstrait-là, qu'est-ce que c'est? Ben, de nouveau, c'est le règne du doux qui commence. Et nous allons faire, si vous voulez, l'éloge de la Grèce antique en ce qu'elle nous a donné, sous la forme d'écriture, de monnaie, de religion, peut-être pas de religion, parce que là, c'est l'apport spécifique des prophètes écrivains d'Israël. Mais sous la forme de monnaie, sous la forme de géométrie, d'algèbre, de logos, etc., et de philosophie, le règne du doux. Voilà. Le doux commence avec les Grecs. Voilà. C'est ça qui... Parce que c'est intéressant de grouper comme ça, dans une seule, dans la main, comme ça, toutes ces inventions qui arrivent en même temps. Vous voyez ? L'invention à la fois de l'idée philosophique, de la monnaie, de la... Oui, c'est ça qui arrive. Alors maintenant, je vais essayer de faire un pas de plus dans mon histoire douce. Mais c'est un pas très difficile à faire, mais une fois que je l'aurai fait, j'aurai mieux compris ce dont je veux parler. À la Renaissance... Alors, je fais un pas gigantesque, là. Vous voyez cette émergence du doux, là, à cette époque en Grèce. Et à la Renaissance, il se passe un événement, là aussi, que je voudrais bien comprendre. Dans les ports italiens, comme Venise, etc., la plupart des historiens sont d'accord pour dire que c'est là qu'est né le premier grand capitalisme, avec des grandes banques italiennes, avec l'invention, le premier traité de comptabilité, il est là. Le premier traité de comptabilité. Probablement le chèque commence là. Vous voyez. Les traites, la traite de bancaires commence là. Vous voyez. Et là, il y a un nouveau quart de tour sur la monnaie. Vous voyez. C'est plus la monnaie telle qu'on l'avait inventée en Lydie, en imprimant la valeur sur de l'or, en disant une drague, trois dragues, 10 dragues, etc., mais de dire, voilà, je vous fais un papier, je vous dois, je certifie que je dois à Christine à tant de dollars. Et ça a de la valeur. Oui, mais c'est pas une valeur or, c'est la valeur de confiance en ma signature. Donc la signature commence à circuler comme vraie valeur, vous voyez. Et ça, La Fontaine l'a bien vu, parce que là, la laitière est de plus en plus légère, hein, de plus en plus, la robe est de plus en plus courte, et elle court de mieux en mieux, parce que ça court mieux encore que le truc. Ça, c'est la Renaissance, à peu près. Alors là, c'est à cause du grand commerce que Venise faisait avec Istanbul, avec toute la Méditerranée orientale. Très bien. Et à ce moment-là, grande coupure énorme entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, au sujet, alors, de la religion. J'avais parlé de la religion tout à l'heure avec juifs et grecs, vous voyez, dans l'Antiquité. Maintenant, je parle de la religion. Et je voudrais que vous m'écoutiez, parce que c'est une chose assez difficile, sur laquelle j'ai réfléchi très très longuement, et je ne vous ai pas distribué le texte, parce que le texte est très court, et c'est un texte de l'Évangile, que voici. Jésus va mourir demain. C'est le vendredi saint qu'il meurt à 3 heures. Et la veille de sa mort, il réunit ses disciples autour de la table pour ce qu'on a appelé depuis la scène, qui est représentée par Léonard de Vinci, que vous connaissez tous par cœur. Et là, au cours de la scène, il prononce des paroles qui sont les paroles quasi définitives qui précèdent sa mort. Et il dit... lorsque je serai mort et que vous mangerez ensemble, vous prendrez du pain, vous le romprez, et vous le distribuerez à vous-même, et je vous dis que ce pain, c'est mon corps. Et le texte dit, ceci est mon corps. Hic est enim corpus meum. De la même façon, il prit du vin, il distribua à ses disciples en disant, ceci est le calice de mon sang. L'important là, c'est de comprendre la phrase, d'expliquer le texte, l'explication de texte. Voilà une explication de texte qui a duré des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire, hic est enim corpus meum? Ceci est mon corps. Mais ce n'est pas ceci qui est important. Ce n'est pas corps qui est important, ni meum, c'est est. Qu'est-ce que ça veut dire, est? Et là, l'explication de texte est en train de naître, chers amis. Parce que ce que nous faisons, nous, en expliquant le texte d'Hésiode, le texte de La Fontaine, etc., a été absolument décisif au moment de la Renaissance et de la Réforme sur le verbe être. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe être? D'un côté, les catholiques, de l'autre côté, la religion réformée. Exactement de la même façon que se sont séparés à un moment les Grecs qui étaient polythéistes et les Hébreux qui étaient monothéistes. Les Grecs étaient polythéistes, je veux dire par là qu'ils croyaient aux idoles, quoique ils aient inventé l'idée d'une autre manière, mais ils ont continué à être polythéistes parce qu'ils révéraient des statues réelles d'or, d'argent et d'airain, tandis que les Hébreux révéraient le mot Jéhovah, et non seulement le mot, mais un mot imprononçable, tellement léger, tellement doux, tellement rien, qu'il ne fallait pas du tout ni le parler, ni le dire, etc. Mais c'était légérissime, dulcissime. Eh bien, la même chose recommence au moment de la Réforme, parce que dans l'explication qu'est-ce que veut dire ce verbe être, c'est mon corps. Mais les protestants vont dire aux catholiques, écoutez, vous n'êtes pas raisonnable. C'est pas le corps du Christ, c'est du pain. Ah, les catholiques vont répondre, oui, c'est du pain. Mais ce sont les apparences du pain. Et derrière les apparences, il y a une substance. On invente le mot substance à cette occasion. Et c'est la substance qui va être changée, et on appelle ça la transubstantiation. Mais, c'est-à-dire le changement de la substance. Alors, la substance va être changée, mais les apparences ne bougeront pas. Et les protestants vont dire, mais vous foutez de moi ou quoi? Parce que c'est quand même du pain. Ah oui, tu crois voir du pain, mais ce n'est pas du pain. Enfin, je veux bien croire que c'est le corps du Christ, mais c'est pas le corps du Christ. Parce que si je coupe l'hostie, elle ne va pas saigner. Va dire Zwingli, va dire Calvin, etc. Et par conséquent, c'est quoi? Mais c'est le signe du corps du Christ. Nous y sommes. Et tout d'un coup, l'Europe va se diviser en deux complètement entre les partisans de la présence réelle, on va appeler ça la présence réelle, et l'autre côté, le fait que je veux bien participer à la communion, disent les luthériens, disent les calvinistes, disent l'ensemble de nos amis réformés, mais ce ne sont jamais que des signes. Voilà pour la théologie. Mais du coup, le comportement économique va diverger complètement. Et je voudrais vous faire comprendre que la théologie, là, l'a emporté de beaucoup sur l'économie. C'est elle qui a décidé de l'économie. Parce que si vous faites la différence entre un catholique et un protestant, aujourd'hui même, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un ton français et un anglais, ou un ton français du sud surtout, et un américain du nord, vous verrez que les uns veulent bien de l'argent à condition que ça leur donne des biens, et l'autre veut le bien avoir des biens à condition qu'il fasse de l'argent. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que l'Europe du Nord et l'Europe du Sud ont bifurqué complètement. C'est-à-dire que à un moment où le règne du doux l'emportait définitivement sur le règne du dur, les catholiques se sont appauvris et les protestants sont enrichis. Tout simplement parce qu'ils croyaient au fait que ce n'était pas la présence réelle qui était là, mais simplement la présence signalétique du corps du Christ. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, l'argument théologique dur-doux a séparé complètement les partisans du dur et du Neubertin. Les catholiques étaient aristotéliciens, parce que si vous regardez l'argument d'Aristote dans la politique, il dit exactement ça. Il dit, écoutez, soyez raisonnables, l'essentiel c'est quand même le soulier, c'est quand même de se chausser, hein. Ah non, je m'en fous dit le banquier protestant, je m'en fous moi de me chausser, j'en ai rien à foutre. Moi, je vends des milliers de chaussures pour gagner des milliers de dollars. L'essentiel, c'est le millier de dollars. L'essentiel, c'est le signe. Et l'essentiel, c'est pas le... Et toute cette discussion va séparer sans arrêt les économies sur cette question-là. Dur, doux. Et donc, je vois là, dans cette histoire que je raconte, des événements qui dépassent de très très loin les événements tels qu'on le raconte dans l'histoire ordinaire, vous voyez. Parce que je reviens maintenant aux Grecs, dès le moment où ils ont inventé la monnaie, l'écriture, etc., c'est-à-dire le signe, c'est-à-dire l'idée, c'est-à-dire l'abstraction, ils ont été les maîtres du monde. C'était facile. Les autres étaient des imbéciles, forcément. Les autres se traînaient encore parmi les bœufs et les boisseaux de blé. C'est-à-dire qu'ils avaient changé de vitesse, vous voyez. Tac. Le changement de vitesse était décisif. Oui. Eh bien, ce changement de vitesse est tel qu'ils ont organisé des cités, qu'ils ont organisé un État, qu'ils ont eu un droit, qu'ils ont eu une philosophie, qu'ils ont eu des mathématiques, qu'ils ont eu une industrie, etc. Et les autres, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui est important dans la civilisation? C'est le nous. Et l'important, c'est d'inventer, c'est ce type d'invention. Ceux qui sont encore dans le travail matériel, si vous voulez, n'ont pas changé de vitesse. Et je crois que ce qu'a inventé la Grèce, c'est ça. On dit le miracle de la géométrie, non. Et il a été global. C'est le miracle de la philosophie, de la monnaie, de l'écriture, etc. Et tout était enveloppé, si vous voulez, dans le même règne. Vous voyez. Et d'une certaine manière, lorsque les historiens donnent de l'importance aux choses comme le métal, comme la pierre, comme je le disais tout à l'heure, ils se trompent complètement. C'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire, les civilisations qui ont commencé dans l'histoire, et la Renaissance, et nous sommes en train de vivre le même phénomène aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre la même coupure aujourd'hui. L'informatique, c'est ça. L'informatique, c'est ça. Et d'ailleurs, je m'adresse à Claude, par exemple, en informatique, par exemple, aujourd'hui, on voit très bien chez les ingénieurs informaticiens des traces de l'imbécilité d'autrefois. Par exemple, ils disent content. Vous voyez ? Ils disent, qu'est-ce qui est important, les tuyaux ou le content ? Alors, quand j'entends le mot content, moi, pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est que content ? C'est l'eau dans la bouteille. Qu'est-ce que c'est l'eau dans la bouteille ? C'est du dur dans du dur, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas me faire croire que le fait qu'il y a Calistoga sur l'étiquette contient Calistoga. Oui ou non ? Mais non, l'étiquette ne contient pas Calistoga. Or, quand ils disent content, ils disent précisément ce que le message transporte. Mais il n'est pas contenu. L'idée de contenant contenu, c'est du dur dans du dur. Mais le doux n'est pas contenu dans le dur. C'est un contresens gigantesque, vous voyez. Et on voit très bien dans le vocabulaire même de la Silicon Valley des héritages aristotéliciens, vous voyez, des héritages d'incompréhension dans le mot lui-même, vous voyez. Parce que vous n'allez pas me faire croire que j'envoie une lettre à ma petite amie et je mets la lettre dans l'enveloppe, d'accord ? Alors, la lettre est contenue dans l'enveloppe. D'accord. Et sur l'enveloppe, j'écris « Petit ami, dans le petit lieu du petit pays ». Vous n'allez pas me faire croire que l'adresse est contenue dans l'enveloppe. Non, elle est sur l'enveloppe, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui est important ? Et ce qui est important, c'est l'adresse, parce que c'est ça qui va faire amener la lettre à destination. Vous voyez ? Donc, le mot « content » me donne des boutons. Parce que le mot « content » est un signe... Non, il me donne des boutons. Il m'intéresse beaucoup, dans la mesure, si vous voulez, où il est une bonne trace historique de l'ancienne manière de penser. Ils pensent toujours dur, alors qu'ils sont plongés dans le doux. Vous voyez ? Ils pensent toujours, etc. Le mot adresse est très intéressant, quoi, ce sujet. Je crois que je vais finir par faire un cours sur les gares. Qu'est-ce que c'est qu'une gare? On a parlé tout à l'heure, je crois. Faire voir que Zola n'a rien compris à la révolution des chemins de fer. Et de la bête humaine, vous avez lu tout ça. Moi, quand je vais à la gare de Bordeaux, il n'y a pas marqué Bordeaux, très peu, mais ce qui est intéressant à la gare de Bordeaux, c'est la liste des destinations. Il y a marqué Bayonne, Toulouse, Paris. Ah oui, et c'est le Doubs, c'est les adresses. Mais si je suis à Strasbourg, il y a marqué Colmar, Mulhouse, Berlin. Mais c'est pas là, je suis vraiment à Strasbourg, là. C'est-à-dire, ce qui caractérise la singularité d'une gare, c'est le Doubs. Mais c'est pas le fait qu'il y ait des rails, des locomotives, il y a partout des rails, des locomotives. Zola ne voit que les rails et les locomotives. Oui, il voit la fumée, l'énergie, le machin. Pas du tout. Une gare, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, une gare aérienne, enfin un aéroport, c'est pareil. Ce qui est fascinant dans l'aéroport, c'est la liste des destinations. On a l'impression, ah non, il va à Kuala Lumpur, à Christchurch. Ah, c'est absolument fasciné, n'est-ce pas? Mais c'est fascinant. Je me souviens, la première fois que je suis allé à Orly, je devais avoir 8 ou 9 ans, je m'y croyais. Le tour du monde en 80 jours, qu'est-ce que je dis? Le tour du monde en 2 minutes, qu'est-ce que je dis? En 2 secondes, vous voyez? Le tour du monde, c'est le règne du Doubs, vous voyez? C'est ça. Et je voudrais faire un cours là-dessus, vous voyez? C'est ça, l'introduction, de dire... je voudrais tout simplement, pour la fin de ma vie, annoncer la fin du lithique. C'est-à-dire la fin du paléolithique, la fin du néolithique, la fin de tous les lithiques. Il n'y a plus de pierre, mes amis. Il y a des signes sur la pierre, des signes marqués dessus. Alors, je vais intituler mes 5 conférences la fin des lithiques.